LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Quand on regarde un combat de boxe avec l'œil d'un profane, on voit deux hommes qui s'affrontent sur un ring. Et quand on commence à avoir un œil un peu plus aiguisé, on voit autre chose. On voit vraiment une chorégraphie sur le ring.
Imaginez la forme de la boîte crânienne.
Le ring, c'est un cercle à l'origine. Quand deux boxeurs s'affrontaient, les hommes autour se tenaient par les bras et formaient un cercle. Et le cercle est devenu carré. 36 mètres carrés, où toute la violence du public, plus que celle des boxeurs, se ritualise dans ces deux personnages qui font une sorte de tragédie grecque. Quoi. Parce que ça se finit toujours mal, même pour celui qui gagne. Un jour, il va perdre.
Boxe, ombre et lumière sur le ring. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre.
De Proust, ma mémoire capricieuse et complice saute au souvenir d'un autre prince. Celui-là se meut dans un carré de lumière comme une idole blanche, souple et féline. C'est Georges Carpentier.
Mais est-ce que cette violence, à un moment, elle vous a fait peur ?
Non, parce qu'elle est complètement ritualisée et elle est complètement contenue dans les 36 mètres carrés du ring. Elle l'est quand on voit un boxeur qui tombe, par exemple. Là où elle fait le plus peur, la violence, c'est dans le public. C'est là qu'elle est, dans l'espèce d'hystérie. On est un voyeur en train de regarder un interdit et de s'exciter par procuration.
Il y a en fait une sorte de dichotomie dans la boxe entre ce que je pourrais appeler de la violence archaïque, de prime abord, quand on regarde comme ça un combat de boxe, et puis une grande sophistication technique dans les déplacements.
L'historien Stéphane Adjeras.
Les coups qui sont donnés. Et cette chorégraphie, elle nécessite un entraînement immense. C'est pour ça que souvent on compare les boxeurs à des moines. Donc c'est Loïc Vacan qui dit ça, et je trouve la comparaison très juste, puisque la vie monacale des boxeurs, il faut vraiment être dedans pour la comprendre. Devenir un bon boxeur, c'est se couper de toute relation sociale, se priver quelquefois lors des grandes échéances de relations sexuelles, l'alimentation, bien sûr, les diètes, hein, parce que c'est un sport de catégorie de poids. C'est très dur, hein. Même quand vous êtes un modeste boxeur, vous connaissez les privations. La diète pour arriver au poids le jour du combat, il faut aussi comprendre qu'il y a un entraînement avant tout ça. Donc quand vous arrivez le soir et on vous sert une petite salade parce que vous savez qu'il va falloir, alors que vous êtes entraîné deux fois dans la journée, vous avez juste une salade et vous allez au lit. Et puis à cela s'ajoute, ça c'est pas rien parce que il faut aussi, on a eu un combat là, Tony Yoka, qui a perdu. Yoka, il faut l'inscrire dans une filiation. C'est pas rien de devenir un champion. Et le plus grand champion de l'histoire des poids lourds, celui qui est sorti avec un palmarès vierge, l'exception, c'est Rocky Marciano. 49 combats, 49 victoires, 43 KO. C'est celui qui a été le plus rigoriste. Il avait une discipline de vie qui ferait pâlir n'importe quel moine. C'est vrai, c'était quelque chose d'impressionnant. Pendant 3 mois, il se retirait dans un camp d'entraînement. Les dernières semaines, il se privait de correspondance avec sa famille. Il coupait tout. C'était juste son adversaire. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque à nos boxeurs, qui sont d'immenses champions. Yoka, il n'est pas champion olympique pour rien. Il n'est pas champion du monde amateur pour rien. Mais s'inscrire dans une filiation, devenir un grand champion, c'est aussi comprendre comment faisaient ces grands champions pour être de grands champions. Parce qu'en plus, à l'époque, c'était peut-être plus dur qu'aujourd'hui. Cette discipline, bon, elle est à la fois fascinante, puisqu'on parlait de noblard, hein, et il y a un côté aussi intrigant. Et puis, c'est bien sûr un sport, un très beau sport, avec un règlement très strict, noble. On ne frappe pas le boxeur qui a mis un genou à terre. C'est une discipline qui a été adoubée par les nobles. C'est la pratique qui s'inscrit dans la filiation un peu des arts martiaux, mais dans le sens l'art de la guerre. Donc avec un règlement chevaleresque. Voilà, c'est pas un jeu de brute. C'est un sport sincère. Les coups sont réellement portés.
Je vais vous expliquer pourquoi je parle de Carpentier, pourquoi je peux parler de Carpentier et pourquoi j'ai été, en somme, le manager d'Al Brown.
Jean Cocteau.
Quand j'aime une peinture, on me dit, oui, c'est très beau, mais ce n'est pas de la peinture. Quand j'aime une musique, on me dit, c'est très beau, mais ce n'est pas de la musique. Quand j'aime un roman, on me dit oui, c'est peut-être très beau, mais ce n'est pas un roman. Quand un homme de sport me frappe, on me dit oui, mais ce n'est pas du sport. Alors je demande, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est autre chose. Réponse, c'est autre chose. J'ai fini par découvrir que cette autre chose était l'essentiel et que c'était, en somme, la définition de la poésie.
Il me semble qu'il y a aussi une analogie entre la musique et la boxe. Et ça, ça m'est venu, et je pense que là aussi, tout pratiquant de boxe le retrouvera.
Le philosophe Axel Fouquet.
Il est très agréable de boxer sur de la musique, ou de faire ce qu'on appelle du shadow boxing. Shadow boxing, c'est quand on répète les combinaisons dans le vide, qu'on se combat contre un adversaire, une ombre en fait, shadow boxing. Et il est très agréable de boxer sur de la musique. Et à mon avis, c'est qu'il y a une analogie entre la façon dont est construite une musique, ou la musique, et la façon dont est structurée la boxe. Dans la musique, il y a une partie rythmique, il y a une partie mélodique. La partie rythmique correspond eh bien, au rythme des coups qui sont donnés par le boxeur. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 3. Enfin, il y a aussi un tempo. On peut boxer de façon plus ou moins rapide. Et on pourrait même pousser plus loin en disant qu'il y a aussi une certaine mélodie dans la boxe. Le coup donné par un uppercut, le coup donné par un crochet ne renvoie pas exactement la même note. Donc, c'est pour ça, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'analogie entre la musique et la boxe qui eh bien, permet encore plus de faire ce rapprochement entre la créativité en boxe et la créativité en art.
L'écrivain Élie Robert Nicou.
La boxe, c'est du pur film noir. Il y a un nombre de films noirs dans lesquels on retrouve la boxe. En plus, c'est un des sports les plus cinématographiques et les plus photogéniques qui soient, à mon avis. En plus, tout est contenu sur un espace. On sait très bien que ça va finir mal pour tout le monde, donc on est forcément dans le roman noir. Et on est dans le noir et blanc. Même quand la boxe est filmée en couleur, ça fait du noir et blanc. Il y a le ring éclairé, tout est dans l'obscurité autour. Enfin, c'est...
ordonner à ses acteurs de se retirer et conserver une seule image.
La boxe qu'on a connue, nous, c'est un film en noir et blanc de la Cinémathèque française, un grand film avec de grands acteurs, etc. Et la boxe qu'on nous propose aujourd'hui, c'est Berlusconi, c'est la télé spectacle, c'est du divertissement. On est passé d'un sport qui était respecté, noble, un sport qui est aujourd'hui un peu un théâtre. Il y a aussi, bien entendu, la concurrence des autres sports de combat, notamment le MMA.
Nasser Negrouche, ancien membre du boxing club de Choisy-le-Roi.
Qui attire d'autres... Mais il y a un esprit de spectacle. Le comportement des boxeurs a changé. Beaucoup d'entre eux se comportent comme des gladiateurs romains. Force et honneur, c'est des slogans comme ça. C'est ils vont sur le ring comme s'ils allaient dans l'arène. Ce qui est finalement un cliché, parce que c'est pas ça la boxe. Encore une fois, il y avait des valeurs proches de ce qu'on retrouvait dans les arts martiaux authentiques, c'est-à-dire de l'humilité, du courage, le respect des autres, etc. Et c'est, je crois, cette défaillance de l'offre qui fait qu'il n'y a plus de public. Autrefois, quand il y avait des grandes soirées de boxe, les annonceurs couraient pour être associés. Aujourd'hui, par exemple, les médias, il n'y a quasiment pas de diffuseurs de boxe, à part quelques chaînes confidentielles avec des audiences assez limitées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les organisateurs de combat de boxe vont payer les diffuseurs pour être diffusés sur leur chaîne. On va mettre à disposition de l'organisateur un camion avec des moyens de retransmission pour sa soirée boxe, en lui disant ben, « estimez-vous heureux ». Et on va lui demander de payer 7 à 10 000 euros pour cette prestation. Ce qui va lui permettre d'aller chercher des annonceurs et de dire bah, « écoutez, communiquez dans notre soirée puisque vous allez passer à la télé ». Donc c'est un triste business, c'est devenu un triste business, sans magie, sans passion, et aussi une scénarisation des combats puisque le verdict, on le connaît presque à l'avance, tellement les combats sont déséquilibrés. Et du coup, c'est vrai que ça perd ce côté inattendu, ce côté, je ne sais plus qui disait que un combat de boxe c'était un drame lyrique entier. Et ça, c'est fini. On n'est plus dans cet inattendu. Ce qui faisait le charme et la beauté de ce sport, c'est que quelqu'un qui perd son combat sur 5, 6, 7, 8 rounds, au 9e round, il pouvait mettre KO son adversaire sur un coup.
Moi, je suis la boxe aujourd'hui, c'est passionnant. Tyson Fury a boxé à Wembley devant 94 000 spectateurs dans un championnat du monde des lourds qui était magistral, magnifique. Il y a une mythologie de la boxe. Il y a effectivement un âge d'or, mais c'est parce que c'est un sport qui s'inscrit dans l'histoire. Historiquement, la boxe, donc, quand elle est codifiée en 1743 par ce fameux Jack Bruton, hein, qui a été inhumé à Westminster Abbey, la boxe se pratique à point nu. Les combats se font au finish. Il n'y a pas de limite. Premier qui s'arrête a perdu. Ou alors, on est KO. Mais, paradoxalement, cette boxe-là est moins violente que celle qui s'est créée à la fin du 19e siècle avec les gants et les bandages. Parce que la boxe qu'on pratique à poings nus au 18e et 19e siècle, essentiellement en Angleterre, un peu aux États-Unis, puisqu'elle se développe aussi aux États-Unis, c'est une boxe qui est moins spectaculaire parce que les combattants avaient le droit à 30 secondes de repos en cas de chute. Donc, ils simulaient régulièrement des chutes quand ils étaient fatigués. Et comme les poings, c'est fragile, des fois, les combats étaient interrompus parce qu'ils se fracturaient les métacarpiens sur les crânes de leur adversaire. Donc, quand on invente le gant, c'est pas pour protéger les visages des boxeurs, c'est pour faire durer le spectacle et que les spectateurs en aient pour leur argent. Donc le gant, il n'est pas dans l'optique de protéger. Il va le devenir quand on va le rembourrer. Les boxeurs d'aujourd'hui ne déméritent pas face à leurs aînés. Mais les boxeurs à l'époque de Carpentier, ils boxent avec des gants de 4 onces. Tout boxeur qui est monté une fois sur un ring connaît le poids des gants. Un gant qui fait 10 onces, c'est pas un gant de 4 onces. Aujourd'hui, en compétition, on adopte soit des gants de 8, soit des gants de 10, en fonction de la catégorie de poids. Jusqu'au poids welter, 64 kg, c'est des gants de 8, jusqu'au poids lourd, c'est des gants de 10 onces. Plus le gant est lourd, plus il est rembourré. Moins l'impact des coups est brutal. À l'époque de Carpentier, jusqu'en 1923, on boxait avec des gants de 4 onces. Des gants de 4 onces, en fait, c'est quasiment point nu. Et à cela, on ajoutait. Là, on voit le vice de la boxe et vice des promoteurs qui cherchaient le spectacle et le chaos. À cela, on ajoutait des bandages rigides. En dessous des gants, on avait le droit d'appliquer un bandage rigide et l'époque, on appliquait du Chatterton. Certains boxeurs trempaient leurs mains dans la saumure pour la rendre comme du cuir, en fait. Ce qui fait que le poing, à l'époque, était dur comme un pavé. Vraiment. Déjà là, quand vous prenez un coup de poing avec du 10-11, surtout avec les bandages professionnels, ce ne sont pas des bandages rigides, c'est interdit, c'est des bandages mous. Vous le sentez vraiment. Alors à l'époque, 4 onces, c'est phénoménal. Ce qui fait que ces boxeurs, pour perdurer, ils étaient obligés de développer les techniques d'esquive. Sinon, vous ne durez pas. Aujourd'hui, vous pouvez accepter de prendre des coups sans tomber KO. À l'époque, un coup avec gants de 4 onces, c'était impardonnable. Donc, ils boxaient mieux dans le sens de la définition de la boxe, toucher et ne pas être touché. Les boxeurs qui arrivaient à durer et à devenir de grands champions, c'était de fins techniciens. Comme il y avait plus de combats, comme ces combats étaient pratiqués de manière plus brutale, j'émets l'hypothèse que la boxe est peut-être un des rares sports qui a régressé techniquement et physiquement.
Il nous vient de Géorgie, il a deux combats à son actif, une victoire, une défaite.
Sur les boxeurs qui sont une espèce de soutien du ring, qui boxent à droite à gauche, ça s'appelle des journeymen. Journeymen, c'est des gens qui vont aller dans des salles, être payés à la journée. Et vous avez une mafia, effectivement, au niveau international, qui va fournir des boxeurs, des gens des pays de l'Est ou d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, pour mettre les gants avec des champions, etc. C'est un métier. Pour eux, c'est un métier. Mais personne ne se soucie de leur santé, personne ne se soucie de leurs droits. Il n'y a pas de suivi médical. Enfin, j'ai des histoires incroyables comme ça, des gens qui ont servi de sparring partner à de très grands champions. On leur donnait en cash de quoi prendre un repas le soir, une chambre d'hôtel peut-être. Et pour eux, c'était l'apothéose. Mais en même temps, on était en train de les sacrifier.
C'est vrai qu'on parle argent. Une citation qui sort de votre livre, Brice Faradji. Vivre de la boxe est impossible. On est payé entre 500 et 1500 euros le combat. Un combat à 1600 euros pour 69 kilos, c'est 23 euros le kilo, moins cher que la côte de bœuf.
Moi, j'ai eu la chance quand même de pas boxer pour gagner de l'argent. Je pense que c'est au bout de 30 ou 40 combats amateurs que je me suis rendu compte que je pouvais toucher un petit billet. Donc, 30 ou 40 combats, je touchais rien. Parce que j'avais l'impression qu'on me rendait service. Et donc, pour moi, c'était quelque chose, je comptais pas dessus. J'en avais besoin, hein. Mais c'était un truc, j'ai l'impression que c'est comme un dealer qui te donne une première dose et tu dis, bon, moi, il continue de m'en donner, donc ça va. Donc, pourquoi lui demander de l'argent? Il me donne ce que je veux. Après, progressivement, au fil des combats, tu te rends compte que la boxe te coûte de l'argent. Tu payes tes licences, tu payes tes entraînements, et puis progressivement, moi, j'ai commencé relativement jeune, donc au bout d'un certain temps, c'est quand même intéressant de gagner de l'argent. En fait, en réalité, déjà, c'est assez tabou dans les mentalités à la française. Par exemple, les Américains, typiquement, c'est la première chose qu'ils demandent, c'est combien ça gagne. Lorsque tu discutes, t'es pas forcément un bon produit pour un promoteur. Alors attention, si j'étais puncher et dès que je te touche, je t'envoie faire dodo, là, l'histoire est réglée, t'as tous les promoteurs qui viennent toquer, ce qui n'était pas mon cas. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait un peu plus de justesse dans mes mots, et à cette époque-là, je savais pas trop faire. Donc, du coup, je me suis fait moins de copains que prévu. Et donc, moi, j'avais un métier qui n'était pas le métier de boxeur professionnel, donc il est quasiment usurpé, ce boxeur professionnel, ça veut rien dire, parce que la plupart des boxeurs ont un métier à côté. Il y a peut-être 3-4 boxeurs qui peuvent potentiellement prétendre en vivre, et en général, c'est ceux qui sortent par la grande porte des amateurs, donc les JO. Après, tous les autres boxeurs, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que si toutefois tu fais partie d'une municipalité et que pour la promotion du dynamisme de la ville, on veut bien t'organiser des manifestations, ouais, ça peut être sympa, tu peux être champion de ta région.
Le Valois-Perret, ça, non?
Oui, le Valois-Perret ou d'autres villes du même acabit. Donc du coup, ce qui est intéressant, voilà, tu peux être champion de ta campagne et tu peux avoir un palmarès de salopard avec 25 combats, 25 victoires. On t'a fait revenir que des clopins presque estropiés et il suffisait de leur mettre un pain dans la bouche pour qu'ils s'écroulent.
Comment vous regardez les combats qui sont organisés aujourd'hui en France?
Ils ont beaucoup de mérite de monter sur un ring, de boxer et tout. Sauf qu'à un moment donné,
Saïd Benajem,
le boxeur, il a besoin de progresser. Il a besoin de devenir demain une star. Et c'est pas en rencontrant des gens beaucoup moins forts qu'eux, qui arrivent des pays de l'Est, qui arrivent de pays où on crève la faim et que 500 euros, ça peut nourrir la famille pendant un mois. C'est pas avec ces gens-là qu'on va faire progresser nos boxeurs. Moi, j'en ai vu qui boxaient tous les week-ends, de samedi à samedi. Nos boxeurs français, ils font leur carrière sur ça. Et le jour où il y a un os, un adversaire qui est dur, il n'y a plus personne.
Fabrice, on peut déjà le dire, il n'avait jamais autant vacillé dans sa carrière pro comme il était. Alors ça fait qu'une minute trente.
Attention, il a été touché en bas aussi. Il faut qu'il a des coups au corps puissants. Martin Bacolé, qui démarre très très fort ce combat. Allez, l'intelligence du ring de Tony Yoka, comme il l'a prouvé à maintes reprises, tourné.
Oh, les Bercy. Puissant, ça fait mal.
Oui, Bercy, qui a compris que Tony Yoka avait besoin de son public. Premier voyage de tapis chez les professionnels d'un Tony Yoka.
Passavant, qui est un journaliste de l'Humanité, a écrit un bouquin qui s'appelait Boxing Business. C'était en 1978. Donc, c'est pas nouveau tout ça.
En France, si on reprend l'histoire de la boxe, de nombreux boxeurs venus d'Afrique, d'Afrique noire subsaharienne, d'Afrique du Nord, ont été littéralement exploités par des managers parisiens, mais aussi dans d'autres régions de France, véreux. La plupart de ces boxeurs ont fini ruinés alors qu'ils ont disputé de très grands championnats, affronté beaucoup d'adversaires, etc. Ils ont fini, et Roland Passevant l'explique bien dans son ouvrage « Boxing Business », les parcours des uns et des autres qui se retrouvent avec des problèmes de santé dans leur après-carrière ou même pendant leur carrière, décollement de la rétine, cécité précoce, commotion cérébrale, etc., qui sont complètement rejetés. Le boxeur est un sportif sans droit. À l'époque, c'est un sportif sans droit. Il doit boxer et puis il est content de boxer parce qu'on lui donne du cash. Il vient souvent de pays où il a connu la misère. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est trop simpliste de dire le méchant manager, le boxeur victime, c'est qu'il y a une relation affective particulière qui va se tisser entre le boxeur et son manager. Cette relation, elle est fondée sur une forme de paternalisme. Et le manager va jamais être brutal avec son boxeur. Il va être doux, protecteur à un moment, lui trouver peut-être un petit job. Il y a un grand manager parisien qui faisait même dormir certains boxeurs sans domicile sur le ring. parce qu'ils n'avaient pas où dormir. Et il y a une reconnaissance du boxeur. Donc il y a une relation, il y a une forme d'emprise psychologique de certains entraîneurs sur les boxeurs. Souvent aussi, il y a un lien avec le contexte géopolitique, historique. Les boxeurs des colonies, notamment d'Algérie, qui formaient un gros bataillon de champions en France, il y a une relation effectivement de domination qui a été transposée parfois dans le monde sportif. Il faut recontextualiser, c'était l'indigène qui venait à Paris, qui avait gagné quelques combats dans son pays, qui montait dans une grande salle parisienne, et voilà, on n'aimait pas trop d'ailleurs quand il battait les gloires nationales, parce que symboliquement, bah, qu'un Algérien puisse battre un champion de France qui lui était un champion fédérateur. Récemment encore, des grandes chaînes de télévision ne souhaitaient pas retransmettre des championnats du monde ou d'Europe mettant en scène des Français, hein, de nationalité française, mais issus de certaines minorités visibles, au prétexte qu'ils n'étaient pas fédérateurs. Que celui qui était fédérateur, c'était le champion de type européen, blanc, qui pouvait fédérer un maximum d'auditeurs ou de téléspectateurs. Cette dimension, j'ai l'impression, a toujours existé, et aujourd'hui encore, on voit l'incapacité des boxeurs à s'organiser pour défendre leurs droits, la santé, la retraite. Il y a vraiment une tentative récemment, d'ailleurs, d'organiser une formation syndicale qui, si je suis bien informé, n'a pas abouti. Il y a vraiment une espèce de vide juridique autour de la personne du boxeur. On a l'impression, voilà, une carrière de boxe, c'est court, hein, normalement. Hein. On n'est pas champion toute sa vie. Le zénith, c'est 2, 3, 4 ans, après, c'est fini. Donc, pendant ce temps-là, on essaie de maximiser les retombées commerciales sans se soucier de l'avenir du boxeur. Combien de fois vous avez vu dans la presse les destins brisés des boxeurs ? Tel boxeur ruiné parce qu'il avait confié ses économies à son oncle qui était soi-disant gestionnaire et qui a tout dilapidé. Tel autre, on lui avait dit qu'on avait fait des placements dans l'immobilier et s'aperçoit que finalement, il n'y a aucun placement immobilier. Il y a une espèce de candeur aussi des boxeurs qui ont tendance à confier comme ça, parce qu'il y a cette relation affective qui prime. Et ça, c'est l'erreur.
On a la boxe, la vraie boxe, celle que nous, on a pratiquée et qui se pratique dans certaines salles municipales. Et cette boxe un peu de bobo.
Et l'Habib Benkouider.
On ne devrait pas l'appeler de la boxe. Et l'erreur aussi qu'ont fait ces gens-là, c'est qu'ils ont fait rentrer un poison dans la boxe, qui est l'argent. Genre qu'à notre époque, nous, il faut savoir qu'on ne payait pas de licence, c'était gratuit. On allait à la salle de boxe, on ne payait pas, c'était gratuit. On arrivait, on s'entraînait en jean. Le médecin venait à la salle nous ausculter. Aujourd'hui, on a fait rentrer de l'argent, donc on se retrouve avec beaucoup de personnes qui sont entrées dans la boxe, qui ne connaissent strictement rien à la boxe, qui dénaturent complètement le sport qu'est la boxe. Ils enseignent une boxe robotisée qu'ils ont regardée sur des écrans télé, sur des différentes chaînes YouTube et autres. Aujourd'hui, on se retrouve avec des boxeurs, en France, je parle, des boxeurs qui n'ont pas du tout le niveau. Aujourd'hui, on a des boxeurs aujourd'hui professionnels qui disputent des combats pro. À notre époque, nous, qui aurons un niveau de amateur deuxième série, leur niveau de boxe est complètement obsolète et ils se prennent pour des champions alors qu'ils ne sont rien. Et toute une magouille qui s'insère là-dessus, dans le sens où aujourd'hui, on fabrique des boxeurs qui vont faire que perdre et des boxeurs qui vont faire que gagner. Aujourd'hui, on a systématiquement en France des combats qui se passent entre un boxeur qui a 20 combats, 20 victoires, qui va boxer un combat qui a 30 combats, 30 défaites. Il n'y a aucune équité, le gars va perdre. Et on continue comme ça à fabriquer des palmarès, tout ça juste pour gagner de l'argent. Et bien, à force, ben, le public n'a pas été dupe. Et aujourd'hui, la boxe est complètement en désuétude.
Stéphane Algéras, Tony Yoka, est-ce qu'il s'inscrit dans la généalogie ou dans la filiation où apparaît quelqu'un qui vous écharge, Georges Carpentier ?
En fait, le championnat du monde des poids lourds, il y a très peu de Français qui ont eu la chance de le disputer. Aucun Français qui est devenu champion du monde poids lourd. C'est prestigieux. On l'a oublié, nous, en France, parce que la boxe a perdu de son aura en France. Et si demain, Yoka, ce que je lui souhaite, hein, a la chance de faire un championnat du monde des poids lourds ici en France, forcément, il ravivra la mémoire de Georges Carpentier.
Le combat le plus émouvant de ma carrière fut contre Bombardier Wells à Gand. Ceci se passait en 1913. J'avais à l'époque 19 ans. Je pesais 74 ou 15 kilos et mon adversaire environ 90. Wells était champion d'Angleterre toute catégorie, avait la réputation d'un boxeur styliste et par surcroît un puncher. La différence de taille était énorme, 12 cm environ. Il me fallait pour battre cet homme employer une tactique que je ne concevais pas avant le combat. Boxer contre lui eût été difficile, étant donné sa taille. Me battre était dangereux, car l'approcher était plutôt difficile. Or, des deux tactiques, j'ai choisi la première, qui a failli m'être néfaste du reste. À peine j'étais en garde, que le géant me contraint du droit et m'envoya au tapis pour 9 secondes. Je me relevais pour y retourner 7 fois pour 7 secondes. Arrive la fin du round, je regagne mon coin complètement groggy. Dès quand mon manager me soigne, me console, ne sait que me répéter « Couvre-toi, Georges, pour l'amour de Dieu, couvre-toi ». Deuxième round, je reprends à moitié groggy, toutefois conscient et uniquement du courage qui me permettait de résister aux coups dangereux et répéter du champion anglais. Je retournais cependant 2 autres fois au tapis et atteignait péniblement la fin du second round. Des camps me réconforta du mieux qu'il le put. Les spectateurs criaient au scandale et se préparaient à quitter la salle, la lutte étant devenue par trop inégale. Troisième round. J'adoptais enfin la tactique que j'aurais dû employer au premier round. Au coup de gong, malgré mes knockdowns, mes éblouissements, je m'élançais contre Wells, le labourais de coups à l'estomac et ne le lâchais plus. Je sentis l'homme faiblir dans mes coups et revenais dans mon coin, beaucoup plus frais et plus confiant qu'au premier round. Descamps me dit « Comment te sens-tu ? » ?»« Mieux que jamais. Je sens que je vais l'avoir au prochain round. » Quatrième round. Je recommençais la tactique employée au précédent et après 1 minute et demie de combat, je touchais durement mon adversaire à l'estomac en l'expédiant au plancher pour le compte.
Il est le premier champion d'Europe en 1911, le premier champion du monde en 1920, donc il remet son titre en jeu, il perd. Et vous dites aussi dans votre texte que c'est un héros national qui a commencé la boxe tellement jeune qu'à 18 ans, il compte 80 combats.
En 1914, je crois qu'il a 77 combats pro à l'âge de 20 ans. Il a commencé la boxe professionnelle à l'âge de 13 ans et demi. Donc ça aussi, on est dans l'extraordinaire. C'est une époque qui est particulière. C'est un personnage qui est aussi particulier dans l'histoire de la boxe parce que ce n'est pas courant. Dans mes recherches, il y a quelques boxeurs qui ont commencé très jeunes, des Anglais, des Américains, mais pas avec la même fréquence. L'intensité augmente, le nombre de combats augmente quand il commence à devenir adulte. Mais Carpentier, en gros, le gros de sa carrière, le gros de ses combats, c'est entre 14 et 18 ans. Ça, c'est vraiment hallucinant quand on sait que des grands boxeurs comme Rocky Marciano, dont je parlais tout à l'heure, terminent leur carrière avec 49 combats pro, environ à l'âge de 35 ans. Mohamed Ali, c'est pareil, c'est une soixantaine de combats pro. Mais Carpentier, il a 20 ans, il a déjà 80 combats professionnels. Et il y a la guerre qui stoppe cette carrière. Dans mes recherches, en 14, Carpentier est au sommet de sa gloire. Et il est un des meilleurs boxeurs du monde à l'époque. Les Anglais le reconnaissent comme ça, les Américains le reconnaissent comme ça en 1914. 5 années d'interruption, il devient certes champion du monde des mi-lourds en 1920. Il tente d'aller chercher le titre des lourds en 1921, mais là, l'étape est infranchissable parce qu'il est trop léger par rapport à Dempsey, plus petit, et puis surtout parce qu'il y a ces 5 années qui ont déréglé la belle machine Carpentier de 1914. On ne sort pas indemne de 5 années d'interruption. La boxe, c'est un sport en fait qui nécessite une telle rigueur, une telle discipline, de tels sacrifices qu'une fois que vous arrivez à ce qu'on peut appeler l'excellence pugilistique, le sommet, vous êtes réglé comme une machine horloge. Qu'est-ce qui permet de maintenir le bon timing, l'austérité dans l'entraînement et la compétition? Or, pendant 5 ans, Carpentier ne s'entraîne pas, c'est la Première Guerre mondiale, il ne peut pas revenir indemne. On retrouve la même chose quand on regarde l'histoire de la boxe. Si vous regardez Mohamed Ali, interrompt sa carrière entre 67 et 70, il refuse de faire la guerre au Vietnam, on le prive de sa licence. Quand il revient en 70, c'est plus le même. La première partie de sa carrière, donc il est champion du monde en 1964 jusqu'en 1967, il est invaincu et surtout il est intouchable. Sur le ring, c'est un maestro, c'est un poids lourd qui boxe, qui se déplace comme un poids moyen. Et ça, c'est exceptionnel dans la boxe. 3 années d'interruption, il revient en 70, il sera plus lourdeau, il acceptera de prendre des coups, et bien sûr, il l'a payé. Il va bien sûr développer une nouvelle boxe, il va s'adapter. C'est un immense champion, mais les 3 années d'interruption ont perturbé la carrière d'Ali. Même chose si on regarde Tyson. Le grand Tyson, c'est le Tyson des années 80. Plus jeune champion du monde de l'histoire des poids lourds, 20 ans. Imaginez, c'est un gamin, 20 ans. Yoka, il a 30 ans aujourd'hui. Et on le voit encore comme un gamin. Tyson, il avait 20 ans en 86. Entre 86 et sa première défaite qu'il va subir chez les poids lourds en 89, Tyson est imbattable. Sauf que, progressivement, il s'entraîne moins parce qu'il va baigner dans le milieu New York des années 80. C'est un roi. Le champion du monde des poids lourds est un roi. Or, il n'a plus son entraîneur qui était à la fois son père adoptif, Cus D'Amato, qui disparaît avant qu'il soit champion du monde en 85. Des tas de requins l'entourent. Il gagne des millions de dollars. Et Tyson va négliger son entraînement. Va commencer à dérégler la belle machine. Il subit sa première défaite en 89. Puis, il a son affaire où il va terminer en prison. Et une fois qu'il revient de prison, au bout de 3 ans, il ne sera plus jamais le même.
Le boxeur, pour moi, c'est d'abord la tête et les jambes. Les mains viennent en troisième position. La tête, c'est l'intelligence du ring, la capacité à organiser une stratégie de combat, à voir les failles de l'autre, à anticiper, à se dire comment je vais me projeter dans ce combat, et puis aussi tout l'aspect mental. Les jambes, c'est vital, puisque vous êtes sur un carré. Donc, le déplacement, c'est ce qui va vous permettre de contrôler le ring, de préparer. Toute la puissance vient des jambes. En fait, c'est pas les biceps hein, qui donnent de la force au cou. C'est les rotations, c'est les jambes, c'est le corps. C'est vraiment être sur une position qui va favoriser finalement l'efficacité. Et ça, c'est vraiment le travail des jambes. Le jeu de jambes aussi en matière défensive, c'est très très important. Savoir faire un pas en arrière, un pas de côté, reculer. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Les esquives. On va avoir par exemple sur l'aspect défensif une gamme d'esquives possibles. L'esquive rotative. Donc, qui consiste à passer sous le cou en allant vers la gauche ou vers la droite. L'esquive latérale, toujours avec les mains hautes, pour éviter un coup. Je peux aussi, si je ne peux pas esquiver ou que ça va trop vite, etc., je peux aussi chasser le coup d'un mouvement bref de la main arrière, chasser le coup qui vient, reculer, accompagner le coup, c'est-à-dire partir en arrière pour prendre le coup en bout de course et même l'éviter. Donc, c'est juste un mouvement du tronc vers l'arrière. Je peux faire un pas de retrait, je peux faire un pas de côté. Donc, c'est l'assemblage de tout ça qui va finalement faire l'efficacité du combattant. C'est sa capacité à organiser en bonne intelligence toutes ses ressources techniques qui va finalement donner le talent du boxeur.
Quand je vous regardais, Nasser, j'ai vu que comme au judo, on ne croise jamais les jambes sur un ring.
Non.
Or, alors, quand on regarde Mohamed Ali, il croise les jambes.
Ah, Mohamed Ali faisait du show, effectivement. Il pouvait danser sur le ring. Il faut bien comprendre, Mohamed Ali a brisé toute un historique dans la catégorie des poids lourds en montrant qu'on pouvait être un poids lourd. Il boxait comme un poids moyen, voire même un poids Walter. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait 60 kilos alors qu'il en faisait 95, peut-être.
Il a enchaîné plus de deux coups. Et, faire une,
Youssef Deba.
Même en étant un poids lourd, tu pouvais être en capacité de donner une série de 4-5 coups. C'est de la répétition. Nasser faisait référence aux acteurs et donc à leur répétition. Nous, c'est pareil, on répète nos gammes. Quand on fait du shadow devant la glace, on répète nos gammes.
On appelle ça le noble art. On prend au sérieux, peut-être de façon un peu naïve, le mot art. Il semble que l'outil de l'artiste, celui qui lui permet de révéler la beauté, ce soit la main. C'est la main de l'artiste qui lui permet de révéler sa beauté. Et le poing, au contraire, ce n'est pas l'outil du créateur, mais celui du destructeur. Même si on regarde dans les religions, quand on parle de la main de Dieu, c'est pour évoquer un geste créateur. Quand on parle du poing de Dieu, c'est jamais pour évoquer un geste créateur. Donc, en effet, le poing semble s'opposer à la main. Et pourtant, eh bien, il m'a semblé qu'il y a, dans la boxe, une capacité à vraiment produire quelque chose, alors peut-être pas d'artistique, mais au moins d'analogue à l'art. Il me semble que cette créativité, elle vient des grandes limites qui sont mises à la boxe. Vous savez que la boxe anglaise, on ne peut frapper qu'avec les poings, qu'au-dessus de la ceinture. Or, il me semble que ces limites sont une source de créativité. Vassil Lomachenko, le boxeur ukrainien, est là, pour le coup, un véritable artiste de la boxe. Une capacité à créer des angles, créer des combinaisons, changer les rythmes, vraiment avoir quelque chose qui se rapproche de l'ordre de la symphonie par sa richesse, en fait, pour pouvoir eh bien, trouver des ouvertures. On parle du style d'un boxeur, c'est assez courant. Évidemment, le style, ça renvoie avant tout au domaine artistique. Même parfois que le coup de finish, c'est-à-dire le coup spécial avec lequel souvent un boxeur termine un combat. On peut dire que c'est sa signature. Ah oui, ce coup-là, c'est vraiment sa signature.
C'est un sport magnétique, la boxe, qui a attiré. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Si les grands écrivains Giraudoux, Paul Morand, Albert Camus et tant d'autres ont été fascinés par le noblard, Henri de Monterland, enfin des Norman Mailer. Et c'est vrai que c'était un sport magnétique, fascinant. Il a qui a fasciné aussi le 7e art, le cinéma, parce qu'il y avait une authenticité, il y avait une vérité du boxeur. Aujourd'hui, ça devient. Alors, il y a deux tendances. Il y a effectivement le sport spectacle, la mise en scène, le show, faire de la mousse sans rien, sans contenu. Et puis il y a aussi la tendance à voir une boxe stéréotypée. Actuellement, on n'a plus de grands champions français qui fascinent les foules, populaires, qui finalement va boxer à guichet fermé, qui va attirer une espèce d'admiration populaire comme ça. Ça n'existe plus. Moi, je dirais le tournant, ça a été les années 80-90.
Moi, je dirais ça a commencé, on va dire, au début des années 95, fin des années 90, dans le sens où tous les vieux entraîneurs qu'on connaissait, nous, tous ces gens qui avaient la science, ils ont commencé à disparaître et la relève n'a pas suivi, en fait. Plutôt, moi, c'est à ce moment-là où j'entraînais et j'ai vu des aberrations où des entraîneurs vous appelaient en disant, écoute, fais boxer mes boxeurs, moi et mes boxeurs, ils perdent tous par KO. Donc, si tu les fais boxer, ils gagneront pas. Donc, j'ai dit aux gars, mais tu sais, tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Tu es en train de me dire que des parents te confient leurs enfants et toi, t'envoies les enfants au charbon. Et j'en ai vu plein, des choses comme ça. Et c'est ces gens-là qui ont fait du mal à la boxe. Et la boxe, petit à petit, en fait, la boxe, elle s'est délitée. C'est comme un glaçon, ça a fondu jusqu'à ce qu'il reste juste une plaque d'eau. Moi, quand mes enfants ont toujours été fiers de dire à leurs copains que j'étais boxeur jusqu'à aujourd'hui, ils disent, ah, mon père est boxeur. Les gens traversent la rue pour venir me serrer la main parce que j'étais boxeur. Parce qu'ils reconnaissent ça. Et quand ils me croisent, ils me disent, ouais, boxeur, ça fait 30 ans que j'ai arrêté de boxer. Et ce respect-là, il est indélébile. Et dans leur esprit, ça restera toujours. Et aujourd'hui, malheureusement, comme les gens ont cet esprit-là de la boxe, quelque chose de grandiose, on en fait n'importe quoi, en fait. On grève des choses qui n'ont rien à voir là-dedans. Aujourd'hui, on voit des youtubeurs qui se rencontrent, ils se lancent des défis, on met des gants. Et en fait, malgré tout, les gens, au fond d'eux, restent fascinés par la boxe.
J'ai perdu cette bataille de près pour un somme, puisqu'au cours du combat, j'ai failli renvoyer au tapis mon adversaire, qui pesait 12 kilos de plus que moi.
Dempsey Carpentier, c'est le 2 juillet 1921, donc il y a tout juste un siècle maintenant, enfin 101 ans, hein. Un combat qui est historique pour plusieurs raisons. La recette au guichet dépasse le million de dollars. Les bourses des boxeurs sont faramineuses. La boxe est le sport le plus lucratif et de loin, hein. Donc c'est 300 000 dollars pour Dempsey, 200 000 pour Carpentier. C'est 85 000 spectateurs qui se déplacent juste pour voir ce match. C'est le début de la radio et des milliers de radios vont être vendues pour ce match. Donc c'est le premier événement sportif radio diffusé. 300 000 auditeurs vont le suivre en direct. Et puis il y a quelque chose d'assez exceptionnel, hein, c'est qu'à Paris, nous aussi, on attend la nouvelle, hein, qui doit venir d'outre-Atlantique. Et bien sûr, pas de radio encore en France. Et il y a la télégraphie sans fil qui permet de connaître le résultat. En moins de 2 minutes, le résultat va parvenir à Paris, mais reste à l'annoncer à ces milliers de Parisiens qui attendent le résultat. Il est 20h à Paris, 15h à New York, hein, lorsque le combat se déroule. Des milliers de Parisiens vont en fait attendre un résultat qui vient du ciel, puisque les journaux, les grands journaux, qui ont décidé de faire décoller des avions de l'aéroport du Bourget, et ces avions sont armés de fumigène, couleur blanche, victoire de Dempsey, couleur rouge, victoire de Carpentier. Donc vous avez des milliers de Parisiens qui attendent place de la Concorde, le long des grands boulevards, et qui scrutent le firmament dans l'attente de ce résultat. Et ça, c'est intéressant parce que on est dans la quasi-immédiateté. Au même moment, à Paris et à New York, vous avez des spectateurs qui vibrent aux émotions du sport. Pour l'époque, c'est extraordinaire et c'est la boxe qui amène cela et c'est Carpentier qui participe de cet événement.
L'enjeu était très important puisqu'il s'agissait du championnat du monde toute catégorie et de gagner eût été une victoire aussi grande pour mon pays que pour moi-même.
Carpentier perd
au 4e round, voilà.
Fumée blanche.
La déception est immense, hein, pour les Parisiens.
Du reste, l'accueil que m'ont réservé les Français à mon retour de Jersey City, là où se déroulait le combat, m'a donné une idée de ce que ça aurait pu être en cas de victoire sur Dempsey.
Il y a partout de la boxe. Les gens veulent faire de la boxe, les gens aiment la boxe. Mais on leur parle pas de boxe. On leur parle de fric, on leur parle de... Quand tu vas à Bercy, tu as des places à 800 balles. C'est un sport populaire, faut pas l'oublier. Quand tu fais Bercy, invite toutes les cités, invite tous les quartiers, invite ceux pour qui on travaille, enfin tous ces gamins-là, tu donnes leur envie de venir. Il n'y a pas que le prisme de l'argent. On n'est pas aux États-Unis, il n'y aura pas des milliardaires, des boxeurs milliardaires, des Tony Yoka, il y en aura un tous les 20 ans, un tous les 30 ans. Il y a plein de choses à revoir. Moi, j'ai essayé d'apporter ma touche, j'ai essayé de... Mais non, on est face à un mur. Et puis, moi, je veux être face à mes boxeuses, et puis là, elle dans les yeux. J'ai pas envie de tricher avec elle. Ni avec elle, ni avec la boxe tout court, quoi. Moi, encore, j'ai boxé à une époque où il y avait un peu d'argent. Heureusement, j'avais un plan B avec ma reconversion. Mais si j'avais compté que sur la boxe, aujourd'hui, je serais videur d'une boîte de nuit. Avec tout le respect que j'ai pour les videurs, je serais magasinier, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Excusez-moi, c'est le bordel. Moi, je suis passionné par ce sport, je suis passionné par les gens, je suis passionné par les boxeurs et les boxeuses. Je trouve que le monde de la boxe, notre fédération, le monde des promoteurs, ceux qui gèrent la boxe, ils sont pas à la hauteur.
Si j'ai bien compris, Saïd Benaven, vous aimez la boxe, mais vous n'aimez pas le monde de la boxe.
J'aime pas tout le monde dans la boxe. Mais les boxeurs sont des gens extraordinaires, les boxeurs sont des gens extraordinaires. Il y a évidemment des entraîneurs qui sont bien et il y a beaucoup de gens qui sont là par opportunisme. Beaucoup de gens qui sont là pour briller à travers les autres. Moi, souvent, j'ai vu des boxeurs qui gagnaient, puis c'est la tête de l'entraîneur qu'on voit qui se met comme ça devant la caméra. Mais aujourd'hui, c'est aux athlètes qu'il faut faire la place. C'est eux qu'il faut qu'on mette en avant. C'est à eux de discuter devant les micros. C'est à eux de raconter ce qu'ils vivent. Mais comme ce qu'ils vivent n'est pas des fois très racontable, donc du coup, c'est compliqué de leur donner la parole. Mais le monde de la boxe, il est dur. On peut pas faire rêver quelqu'un avec ça.
Il y a, moi, quelque chose
Nassar Negrouche,
irrespectueux pour les boxeurs. Ce sont des concepts de boxe avec des tables, public VIP digne, pendant que les boxeurs combattent. Je trouve ça d'une vulgarité sans nom. Alors après, dans le public, il y a ce qu'on appelle des connaisseurs, des gens qui viennent et qui apprécient la beauté de la boxe. Ce boxeur-là, il a un jeu de jambes incroyable. Cet autre-là, il a un direct du gauche d'une pureté incroyable. Les esquives de celui-ci sont éblouissantes. C'est avoir, disons, un bagage pugilistique qui permet d'apprécier la gestuelle, les déplacements, la manière dont le boxeur va mener son combat, son courage, sa résistance, sa précision. Ça, c'est rarissime.
Mais il me semble que si la boxe fascine, c'est que cette authenticité que les boxeurs dévoilent et déploient sur le ring est une source d'inspiration pour tous dans notre vie quotidienne. Quand on voit un boxeur qui est acculé, mais sort tout ce qu'il a dans ses tripes, comme on dit, pour pouvoir essayer de reprendre le dessus, on se dit que nous-mêmes, nos petits problèmes, qui sont souvent moins douloureux physiquement et parfois peut-être plus douloureux moralement, on peut les affronter aussi de la même façon. Ce qui est intéressant dans boxe, c'est qu'on ne peut pas frapper sans se dévoiler. En boxe, la position de base, c'est une position avec la garde, donc les poings devant le visage. Frapper, ça nécessite de tendre son bras et donc de risquer prendre un contre. On ne peut pas frapper sans risquer de se prendre quelque chose. Et donc le boxeur, à chaque fois qu'il attaque, sait qu'il se met en danger. Eh bien, dans l'existence, c'est pareil. L'existence de l'homme, à la différence de l'existence de la pierre, c'est que, elle se jette hors d'elle-même. Elle va conquérir des nouveaux pans. C'est une existence qui se construit, l'homme se construit même. Et donc là aussi, le boxeur, le risque qu'il prend pour pouvoir gagner, en dévoilant sa face pour frapper, est à la fois une source d'inspiration et aussi un dévoilement de une dimension fondamentale de la condition humaine.
Celui-là se meut dans un carré de lumière, comme une idole blanche, souple et féline.
Le carpentier historique, c'est celui de la Belle Époque. Celui-là, il est exceptionnel, il est même exceptionnel dans les annales de la boxe. Et Dieu sait qu'il y en a, des boxeurs. Les grands boxeurs qui commencent aujourd'hui en professionnel à l'âge de 15 ans, il y en a chez les Mexicains qui font ça. Vous savez, c'est un peu comme les grands joueurs d'échecs ou les virtuoses de la musique. Plus vous commencez jeune, plus vous développez peut-être des techniques exceptionnelles et aiguisées, les techniques grandissent en même temps que vous. Et vous devenez une sorte d'exception dans ce que vous faites. Et dans la boxe professionnelle, c'est pas la musique, c'est pas les jeux d'échecs, c'est plus dangereux, quoi. Boxer à l'âge de 16 ans face à des adultes, c'est très dangereux.
Ce qui est sûr, c'est que les boxeurs sont les grands oubliés en termes de droits des sportifs. Il y a vraiment un gros travail de rattrapage à faire, de protection du boxeur et déjà d'information du boxeur. Est-ce que les boxeurs professionnels aujourd'hui en activité, en France par exemple, sont réellement informés des risques qu'ils encourent en montant sur un ring? J'ai un ami qui a été champion récemment, qui est allé faire une séance de sparring en Allemagne avec un championnat du monde. Il revient à la salle et il a des troubles de la vision importants. Je lui demande d'aller chez l'ophtalmo en urgence. Je lui ai même proposé de l'amener maintenant en urgence. Il me dit non, je vais aller la semaine prochaine. On lui dit c'est fini la boxe, plus de boxe pour vous. Vous avez un nerf optique qui a été atteint et là vous risquez de perdre la vue. Après maintes pressions, on lui trouve un autre ophtalmo de complaisance qui lui dit non, mais il peut continuer la boxe. Alors, je ne vais pas généraliser. Il y a quand même une... Par rapport aux années 50, c'est vrai que c'est peut-être un peu mieux, mais pas beaucoup. Moi, j'estime pas beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment un statut juridique du boxeur qu'il faut trouver. Par exemple, le boxeur professionnel aujourd'hui, alors je crois qu'il y a eu une réforme récemment, on l'oblige à être auto-entrepreneur pour pouvoir percevoir sa bourse, ce qui est pas normal, puisqu'il y a un statut de l'indépendant. Et c'est vrai qu'on peut parler d'ubérisation du boxeur professionnel, puisque jusqu'à présent, il touchait sa bourse dans une espèce de no-man's land fiscal. En principe, il aurait dû être salarié, le boxeur professionnel. Il devrait être salarié. Mais pour échapper aux charges, on va lui proposer de faire une note. C'est-à-dire que le boxeur aujourd'hui, pour encaisser ses bourses, il va devoir monter une structure, même si elle est légère, mais c'est quand même un régime social, juridique, fiscal, etc. Payer des charges, faire des déclarations fiscales, etc. Donc il y a une lourdeur administrative, il y a déjà un coût en termes de charges liées à la création de la structure. Et on fait de lui un travailleur indépendant, ce qui n'était pas son statut, historiquement. Il n'était pas indépendant, il n'y mettait pas de facture, le boxeur professionnel. Il touchait sa bourse, point.
1975, Georges Carpentier meurt. Que reste-t-il aujourd'hui de Georges Carpentier en France, dans les rues, dans les places de village? Est-ce qu'il y a des grandes salles de sport qui sont à son nom?
C'est incontestablement le sportif le plus populaire du début du XXe siècle en France. C'est un dieu. Les Américains, en gros, ils connaissent deux grands boxeurs français. Il y a Carpentier et il y a Cerdan. Carpentier, quelques salles de boxe portent son nom, quelques rues portent son nom. La halle Georges Carpentier à Paris 13. Mais moi, je pense que, notamment à Paris, où il était extrêmement populaire, hein, une station de métro devrait être à son nom. On a le métro Suzanne Lenglen. Carpentier était beaucoup plus populaire que Suzanne Lenglen. Donc, oui, il y a une disparition de la mémoire nationale. Mais c'est aussi, il meurt à une époque où la boxe est en train de disparaître progressivement en France.
Mais qu'est-ce qui se passe dans les années 70 pour que ça s'éteigne et qu'aujourd'hui, la boxe, même s'il y a des figures qui commencent à monter, ne soit plus ce sport d'éclat qu'il était?
D'abord, c'est un sport qui décline parce qu'il y a une multiplication des fédérations. Autant dire que chaque champion du monde est champion de sa fédération et pas champion du monde. À part s'il réunit les quatre ceintures. En plus de cela, il y avait à l'époque 8 catégories de poids. Les plumes, les légers, les Walter, moyens, mi-lourds, lourds. Et peut-être avant plumes, coq. Aujourd'hui, vous avez coq, super coq, plume, léger, super léger. Donc 17 catégories de poids et 4 fédérations multipliées, ça fait X champions du monde. Et ça, c'est l'appât du gain.
On assiste depuis quelques années en France, par exemple, à l'émergence de nouvelles salles de boxe, de salles VIP, des salles de luxe, pour quelques personnalités privilégiées du monde du showbiz, de la politique, des finances, qui vont s'entraîner dans des salles luxueuses parisiennes où il faut dépenser plusieurs milliers d'euros par an pour avoir un droit d'entrée. Et ça, c'est pas la boxe. C'est pas la boxe. La boxe, c'est un sport qui va accueillir tout le monde sans distinction et fabriquer du lien, quelles que soient les origines sociales, culturelles, etc. Donc on a ces salles un peu dorées qui se développent, qui captent une clientèle, puisque c'est vraiment une démarche commerciale, hein, ils captent une clientèle d'adhérents, et les salles populaires municipales sont oubliées. Il faut se dire que ce sont des bénévoles qui se donnent à 100%, qui vivent de subsides municipaux, de subventions, pour avoir 50 euros, 100 euros pour imprimer des affiches. Et c'est vraiment artisanal comme démarche.
Je suis en colère en vérité. Je suis en colère de fou. Moi, j'ai jamais attendu à parler de la boxe pour vivre. C'est pas ça. Moi, je suis éducateur sportif à la ville de Bervilliers, qui m'aide, qui a compris ce que la boxe était pour la ville. Ils vont me refaire ma salle, ils vont me racheter un ring. Ça coûte de l'argent, mais au-delà de l'argent, c'est des centaines de gamins qui vont venir à la salle de boxe. En 1990, j'obtiens mon brevet d'État. Je propose à la ville d'Aubervilliers d'intégrer la boxe dans les écoles primaires. Chose qui n'a jamais été faite. On me dit, ah Saïd, attention, la boxe dans les écoles et tout. Je fais, écoutez, on fait un essai. Moi, j'ai un brevet d'État maintenant, j'ai un diplôme qui peut me permettre d'encadrer les petits. On fait un essai. Si ça ne marche pas, vous mettez au planter jardin et c'est bon, je serai fonctionnaire au planter jardin, j'irai arracher les plantes sur le trottoir, pas de souci. Ça dure depuis 90. Les écoles primaires font de la boxe. Il y a 15 classes par an qui viennent et qui font une heure de boxe. Les gamins, ils sont super contents. Et derrière, comme ils sont en âge de venir en club, ils viennent s'inscrire au club. J'ai proposé ça à la fédération dans une assemblée générale il y a 20 ans de ça. Oh, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. À des officiels de la fédération, de la boxe dans des écoles primaires, mais t'en es où? Ça va pas, c'est pas adapté et tout et tout. Je fais, faut l'adapter. C'est, au lieu que les gamins ils se touchent sur le visage, ils se touchent sur les épaules. Au lieu que les gamins ils font que de la boxe, on leur apprend à juger, on leur apprend à arbitrer, on leur apprend à coacher. Et puis à la fin, on fait un tournoi. Moi, je faisais un tournoi à 300 élèves. Les filles jugeaient et arbitraient les garçons jugeaient et arbitraient les filles. On avait des juges, des arbitres, des coachs. C'est magnifique. C'est ça, voilà à quoi doit servir l'argent de la boxe. Les parents qui venaient, les profs, les autres profs qui n'étaient pas concernés par la boxe, qui sont là, qui crient, qui s'amusent. Quatre rings. Avec quoi j'ai fait des rings? Des poteaux de badminton et du rubalise. La boxe, on peut la faire partout. La boxe, on peut faire sur la plage. Tu prends quatre plots, ça te fait un carré, t'as un ring, et puis tu inities les gens, tu vois.
Emmanuel Negroni, où est-ce qu'on est?
Alors, nous sommes au ring parisien, dans le 2e arrondissement de Paris, qui est l'ancienne salle de Jean Bretonnel, la dernière salle de Jean Bretonnel, du temps où il était coach et promoteur. Voilà. J'ai repris ce club il y a 5 ans et donc j'ai organisé l'ouverture d'une section handibox parce que j'étais persuadé que ça pouvait apporter beaucoup pour eux.
On pousse la porte?
Bien sûr.
Combien de combattants là dans la salle?
Là, il y en a une vingtaine.
Est-ce que vous avez vu une progression entre l'arrivée de ces jeunes boxeurs et aujourd'hui, après plusieurs mois de pratique?
Oui, oui, bien sûr, on a des non-verbaux qui arrivent, notamment une fille, elle est non-verbale et très timide dans son coin, et maintenant elle est capable de faire une mise de gants, direct du gauche, direct du droit, uppercut, crochet, non, c'est très... Oui. Mais il n'y a pas que ça, c'est une forme d'inclusion. Bon, il y a du progrès, pas pour tout le monde, mais c'est pas grave, ils sont tous très heureux d'en faire parce qu'ils existent. Quelque part. Ils existent, ils sont boxeurs à part entière, ils vont dans leur salle de boxe et c'est pas nous qui allons chez eux pour leur faire leur petit cours dans l'établissement. Ça, c'est très très important.
Allez, tout le monde debout, on est devant le sac et c'est parti.
Est-ce qu'ils font des combats?
Non, il n'y a pas d'opposition pour la personne avec déficience intellectuelle. C'est logique, c'est normal, ils ne maîtrisent pas leur. Complètement leur volonté et donc il n'y a pas de... Alors, ce que l'on développe, c'est toute la gestuelle de la boxe, la rigueur du corps, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes dans la connaissance de leur corps, des gestes, que c'est qu'une... le bras gauche, le bras droit, comme ce sont des gestes qui sont différents, ça leur apporte beaucoup. Et puis, la dépense physique qui est importante, notamment le sac, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont notamment les personnes avec autisme.
1, 2, 3, 4, encore, 5, tout le monde, 6, Alina, 7, 8, 9, et vous êtes au top. Très bien. Ok, on en fait un dernier. Un dernier. Les mains en l'air. Non, et on tient au-dessus. Allez, tout le monde. On attend tout le monde. Allez, Jonathan, c'est parti. Ok, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, super. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On relâche.
1, 2, 3, 4, c'est bien Ryan, encore une fois. 1, 2, 3, 4. Continue champion, c'est ça, exactement.
C'est des personnes qui sont stressées, c'est des personnes qui sont angoissées et ils peuvent extérioriser une angoisse qu'ils ont au travers de ce genre d'activité.
Très bien Hugo, une deuxième fois. Une deuxième fois Hugo, reviens Hugo. Ah ouais, attends, t'inquiète pas, l'autre pied. Très bien, go, je dis rien. 1, 2, 3, 4, super champion. T'es prêt? Je fais ça une fois, donc 1, 2, 3, 4, et après tu tapes le plus vite possible 10 fois.
Ok.
Allez, 1, 2, 3, 4, et le plus vite possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une deuxième fois.
Ouais, bien. Bravo. Qu'est-ce que vous leur transmettez en fait ?
Le plaisir de faire du sport avant tout, aussi le plaisir de découvrir la boxe, de se dépasser, de se défouler, de rigoler, parce qu'on passe aussi de très bons moments ensemble.
Le plaisir.
Bah ouais, le plaisir d'être avec vous, non ?
Ouais. Dans la boxe, tu voles comme un papillon, tu piques comme une abeille.
C'est ce qu'il dit souvent.
Tout à l'heure, ouais. Vous avez porté des sacrés coups ?
Ouais, je t'appelle vraiment.
Oh, salut, moi.
On se voit vendredi.
Ouais, vendredi prochain.
À la prochaine.
Je vais faire une chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire interpréter la chanson d'un autre.
Ah, plus j'y pense, plus je me dis que dans le fond j'étais verni. Moi j'ai boxé dans le monde entier. Ouais, quel chouette métier. Quand je frappais, c'était dans le mille. J'ai toujours eu les mains fragiles. J'ai pas pris de coups, tiens pas si bête. J'ai mal à la tête. J'ai fait 300 combats. Et même en Amérique, leur champion tenait pas. J'étais un scientifique.
Boxe, ombre et lumière sur le ring. Avec Stéphane Adjeras, historien, auteur de Georges Carpentier, l'incroyable destin d'un boxeur devenu star. Le philosophe Axel Fouquet. Nasser Negrouche, Youssef Deba, El Habib Ben Kouider, ancien membre du Boxing Club de Choisy-le-Roi. Saïd Benajem, coach au Boxing Club d'Aubervilliers. Emmanuel Negroni, responsable du ring parisien et initiateur de la section Handibox. Et l'écrivain Élie Robert Nicou. Avec aussi la voix de Georges Carpentier en archive. La série documentaire, documentation musicale Virginie Gresset et Yorgi Daskalov, prise de son Manu Couturier, mixage Julien Douminc, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarez.
Si j'ai pu le rond, je suis toujours bon, je les prends tous leurs grands champions, je ne suis plus jeune, mais je peux encore faire le palais des sports. Il n'y en a pas un qui resterait droit pendant deux rounds en face de moi. Je leur ferai voir qui est vedette. J'ai mal à la tête.
Célibataire sans en avoir fait le choix,
Sonia Kornlund,
Adila Benedjaizou a décidé d'enquêter sur les raisons de cet état en remontant le fil de ses ex.
Ça fait 17 ans que tu es seule. En même temps, tu ne fais pas femme aigrie, tu fais équilibré. Tu te démerdes plutôt bien.
Exologie, c'est la science qui s'occupe des ex.
Exologie, une vie de célibataire, un podcast d'Adila Benedjaizou, réalisé par Clémence Gross et proposé par Les Pieds sur Terre, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.